Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Et bonjour Émilie Dez.
Et bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Bienvenue sur Europe 1, il est 6h.
Désormais, c'est clair, c'est assumé, c'est annoncé. Avant même le premier tour, il n'y a plus aucune différence entre les LR et La République En Marche.
Stéphane Ravier, le sénateur RN des Bouches-du-Rhône, tacle le rapprochement entre La République En Marche et Les Républicains pour les régionales en PACA, une alliance politique qui secoue la droite. Fini les restrictions de déplacement, première étape du déconfinement aujourd'hui avec la reprise un peu hybride des collégiens et des lycéens. Nordal Lelandais devant les assises de Chambéry, le maître chien comparé à partir d'aujourd'hui pour le meurtre du caporal Arthur Noyer. Et puis c'est une information Europe 1, une nounou de la Baule est accusée de violence physique et sexuelle sur un enfant de 5 ans dont elle avait la charge.
À suivre la page des sports et puis mon invité inattendu sera la nouvelle ambassadrice de la fondation 30 millions d'amis. Vous allez la découvrir et vous verrez qu'elle évolue dans un milieu plutôt étonnant. Bon réveil à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La droite secouée après le rapprochement entre La République En Marche et Les Républicains pour les régionales en région PACA. Renaud Muselier, le président sortant, s'est vu retirer son investiture LR. Pour Stéphane Ravier, sénateur RN et élu au conseil municipal de Marseille, ces manœuvres politiques trompent les Français.
Désormais, c'est clair, c'est assumé, c'est annoncé. Avant même le premier tour, il n'y a plus aucune différence entre les LR et La République En Marche. Renaud Muselier qui voulait faire encore illusion, ou qui faisait illusion il y a encore quelques jours, était déjà en pleine négociation. Il a obtenu ce qu'il voulait, le soutien d'Emmanuel Macron. Il ne se rend pas compte que c'est comme la corde qui soutient le pendu, mais c'est une réalité. Les électeurs sont donc informés qu'il y a un bloc d'un côté, les Républicains En Marche, et les listes conduites par Thierry Mariani. Voilà une belle clarification. Donc tout ça va se traduire pour lui par une soustraction électorale. Parce que nous tendons la main aux électeurs LR ainsi bafoués, méprisés et si j'ose dire cocufiés.
Voilà pour les mots de Stéphane Ravier. Et de l'autre côté, côté En Marche, Sophie Cluzel, la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, qui s'est rangée derrière Renaud Muselier, justifie cette alliance.
Elle était l'invitée d'Europe 1 hier soir.
Nous allons tout simplement unir nos compétences pour notre région d'abord, en agissant ensemble. Ce sont les deux slogans qui se réunissent et qui se réunissent très bien pour le projet que l'on a, projet très très vite et très très fort se rassembler pour offrir cette alternative aux habitants, aux électeurs. Cette crise sanitaire nous oblige à aller très très vite pour reconstruire un projet qui respecte toutes les différences. Ensemble, on est plus fort, on a beaucoup de choses qui nous rassemblent avec Renaud Muselier, avec sa majorité, et nous allons travailler très très rapidement sur les équipes, sur le programme, pour respecter les différences de chacun et s'enrichir de nos différences. C'est une addition d'enrichissement, et ce n'est pas du tout ce que dit, au contraire, le Rassemblement National.
Sophie Cluzel, la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées qui s'est rangée derrière Renaud Muselier.
Oui, je vous rappelle qu'Éric Ciotti, le député Les Républicains, sera l'invité de Sonia Mabrouk tout à l'heure à 8h15. On en vient à la première phase du déconfinement à partir d'aujourd'hui. Fini les restrictions de déplacement. Et puis c'est le retour en classe des collégiens.
Et seules les classes de 4e et de 3e des départements les plus touchés reprennent les cours en demi-jauge. Retour en classe hybride et en demi-jauge aussi pour tous les lycéens. Mais alors, comment vont se passer ces prochaines semaines? On fait le point avec vous, Mathieu Charrier. Bonjour.
Bonjour.
Alors d'abord, est-ce que ces professeurs ont reçu des consignes particulières du ministère pour insister sur tel ou tel point?
Non, aucune consigne particulière du ministère. Après, c'est vrai que les situations et donc les objectifs de cette fin d'année sont très différents selon les niveaux. Au collège, la majeure partie de l'année s'est déroulée en présentiel, donc quasi normalement. C'est au lycée que c'est beaucoup plus compliqué. D'abord pour les secondes, qui pour certains subissent un enseignement à distance ou en demi-groupe depuis novembre. On voit des élèves qui n'ont même pas encore compris comment fonctionne le lycée, me confiait un professeur. Ensuite, pour les premières, il faut consolider les acquis, récupérer tous les élèves et les remettre dans une dynamique de travail. Enfin, concernant les terminales, il y a un objectif principal, le nouveau grand oral du bac à la fin de l'année. Même si un futur juré me disait « on ne cherchera pas à les piéger », on a conscience qu'ils subissent des conditions d'enseignement très particulières depuis plus d'un an.
Et est-ce qu'il y aura des conséquences sur l'année prochaine? Parce qu'on imagine que c'est difficile de rattraper le retard qu'ont pris certains élèves.
Oui, car clairement, cette fin d'année ne permettra pas de rattraper tous les retards accumulés. C'est pour ça que les syndicats d'enseignants ont demandé que les programmes soient revue et allégée pour l'an prochain. Afin d'intégrer le fait que l'enseignement a été chamboulé depuis plus d'un an, le ministère a accepté et ces prochaines semaines vont donc se mettre en place des groupes de travail pour réfléchir dans chaque discipline à quel point précis peut être retiré des programmes pour laisser en fait un peu plus de temps au rattrapage de ce qui n'a pas pu être enseigné pendant ce Covid. En parallèle, le programme de révision du bac 2022 devrait lui aussi être allégé.
Mathieu Charrier pour Europe 1.
C'est un procès très attendu qui s'ouvre aujourd'hui devant les assises de Chambéry, celui de Nordal Lelandais, jugé pour le meurtre du caporal Arthur Noyer.
Le jeune militaire de 23 ans avait disparu à Chambéry 5 mois avant Maëlys, dans la nuit du 11 au 12 avril 2017. Dès cet après-midi, la cour s'intéressera à la personnalité et au parcours de ce maître chien de 38 ans. Une personnalité clivée à tendance pervers, d'après les psychiatres qui l'ont expertisé, Marion Dubreuil.
Oui, d'après ses anciennes compagnes, Nordal Lelandais a une double personnalité, prévenant et manipulateur. De son expérience au sein de l'armée, Nordal Lelandais a conservé la méthode. Le trentenaire compartimente sa vie, deux téléphones portables, l'un pour ses relations sexuelles, l'autre pour sa famille et ses proches. La nuit du meurtre d'Arthur Noyer, l'accusé a d'ailleurs bien pris soin d'éteindre ses deux téléphones. Le mobile est à chercher du côté de la toute-puissance. Nordal Lelandais est intolérant à la frustration. Le 11 avril 2017, il a été conduit par deux partenaires sexuels. Le maître chien se rend donc à Chambéry avec une envie à assouvir, d'après les magistrats instructeurs. On le voit rôder sur les images de vidéosurveillance entre 23h et 3h du matin, à pied ou en voiture, lentement. Arthur Noyer est une proie vulnérable. Le jeune homme de 23 ans est fortement alcoolisé quand il croise sa route. Pourquoi est-il monté dans sa voiture? D'après un co-détenu à qui Nordal Lelandais s'est confié, c'est parce que le jeune homme de 23 ans a finalement refusé ses avances, qu'il l'a frappé à mort avec une pierre.
Marion Dubreuil, l'envoyé spécial d'Europe 1 à Chambéry.
Il est 6h07 sur Europe 1. Cette information que nous vous révélons ce matin, une nounou est accusée de violence physique et sexuelle sur un enfant de 5 ans dont elle avait la charge.
C'est une affaire qui a démarré en juillet 2020 par le simple signalement d'un témoin dans la rue. Il a vu le petit garçon violemment pris à partie par sa nourrice devant un manège de la Baule. D'autres violences présumées ont été découvertes ensuite, cette fois à caractère sexuel, et sur lesquelles la justice va se pencher, Chloé Triomphe.
Oui, ce témoin, stupéfait par la violence de la scène, a tout de suite réagi, comme en témoigne l'avocat de la famille du petit garçon, maître Oudy Bloch.
Il y a eu des hurlements contre cet enfant qui était assis sur un banc et recroquevillé sur le banc, et comme il ne réagissait pas à ces provocations, il y a eu des coups portés, des fessées, des claques sur les cuisses, des pincements très forts. La nourrice l'a poussé violemment contre le banc, et tout ça a été suffisamment violent pour qu'il y ait un signalement fait à la police.
Au départ, l'enquête s'oriente vers une simple convocation devant le tribunal pour violence. Mais le petit garçon se confie, il parle de sévices sexuels et il faudra la persévérance de sa mère et de son conseil pour réorienter l'enquête pour agression sexuelle lors d'un premier rendez-vous d'audience en avril dernier.
Les déclarations de cet enfant sont constantes, des déclarations auprès de sa mère, auprès de trois pédopsychologues. Nous savions qu'il s'agissait de pénétration et donc de viol.
L'affaire a été suffisamment prise au sérieux par le maire puis par le préfet qui sont intervenus pour que la nounou mise en cause soit suspendue de ses autres emplois dans plusieurs écoles et dans une EMJC. Et la justice doit désormais statuer sur la demande de requalification des faits en viol sur mineur.
Chloé Triomphe pour Europe 1. Aux États-Unis, la bataille entre Apple et l'éditeur de jeux vidéo Epic Games débute aujourd'hui devant les tribunaux. Epic Games, qui produit notamment le jeu Fortnite, dénonce les entraves à la concurrence pratiquées par Apple, notamment sur son App Store.
Allez, un peu de musique pour terminer ce journal. Vous ne connaissez peut-être pas ce groupe, vous allez le découvrir. Il s'appelle 47 Terres. C'est un groupe de trois amis d'enfance d'une vingtaine d'années. Et leurs chansons sont écoutées des millions de fois sur les plateformes en ligne.
Et Patrick Bruel est même apparu dans un de leurs clips. 47 Terres vient de sortir son deuxième album, qui est déjà un carton. On les découvre avec Angèle Châtelier.
Au milieu d'un sommeil noir, si j'arrive pas à me barrer, vas-y réveille-moi. J'adore le soleil noir tant que la belle vie me guette et veille sur moi.
47 Terres n'est pas qu'un groupe de rappeurs.
On s'est mis à danser sans savoir le faire. On a libéré nos pensées sans savoir les termes.
Le trio vient de Bailly en Île-de-France et à la maison, leurs parents écoutaient du métal. Dans leurs oreilles, à eux, il y a autant du rock que de la pop. Justin Bieber, Vianney, Dua Lipa. C'est ce mélange des genres qui a fait leur succès.
On a commencé avec des freestyles, donc je comprends qu'on nous ait mis dans cette catégorie de rappeurs. Mais en fait, nous, ce qu'on aime faire, tu vois, dans l'album, là, par exemple, il y a un morceau Avec toi, c'est uniquement de la pop.
Avec toi.
toi, j'ai remporté la victoire de ma vie.
Donc en fait, on n'est pas du tout dans une catégorie vraiment.
Et ça marche. Après s'être fait connaître sur les réseaux sociaux, leur premier album s'est vendu à 50 000 exemplaires. Leur concert affiche complet. Aussi parce que leurs paroles sont positives. Ici, ils nous invitent à réaliser nos rêves.
Tu verras que la vie est fêlée si tu veux vivre tes rêves. Alors c'est maintenant, vas-y, fais-le.
Leur rêve à eux de vivre de la musique s'est réalisé. Le nom de leur nouvel album, d'ailleurs, l'évoque Légende. Clin d'œil au concept de légende personnelle, qui consiste à trouver la destinée de sa vie.
Qu'est-ce qu'on attend pour vivre ? Qu'est-ce qu'on attend pour briller ? Qu'est-ce que le temps nous livre à part ?
47 airs racontés par Angèle Châtelier pour Europe 1.
Et voilà pour terminer le journal signé Émilie Dez. Il est 6h11.